T'es en manque d'inspiration?
T'es curieuse?
À la bonne heure, tu es au bon endroit.
Vos médiathèques s'invitent à Radio B pour vous présenter leur coup de cœur du moment.
Nos chroniques sont à retrouver le 4e mercredi du mois.
À 7h30, 8h30 et 12h30.
Rediffusion le samedi à 12h30.
Tu nous as ratés?
Pense au podcast.
Bonjour et bienvenue dans les coups de cœur des médiathécaires. Aujourd'hui, Laurence nous présente un roman policier. Lucille va nous parler d'un roman young adulte, tandis que Marjorie va vous conseiller une BD. Et enfin, je vais vous présenter une pièce de théâtre. Je laisse désormais la parole à Laurence.
Merci beaucoup Maëlle. Bonjour à toutes et tous, chères auditrices, auditeurs de Radio B. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous présenter un roman policier bourré d'humour, ce qui, pour le genre, n'est pas habituel. Il s'agit de L'Agent, écrit par Pascal Dietrich et édité par Liana Lévy. De par sa formation, Pascal Dietrich est docteur en sociologie, diplômé de l'École des hautes études en sciences sociales et chercheuse. Côté écriture, elle est révélée par plusieurs comédies noires, notamment Les Mafieuses et Faut pas rêver. L'Agent, écrit en 2024, est son 5e roman. Donc voici quelques mots pour résumer l'intrigue. Le personnage principal, Anthony, est devenu un chef d'entreprise prospère qui jouit de nombreux privilèges liés à son ascension sociale. Si son métier d'agent de tueur à gages ne lui permet pas de crier sa profession sur tous les toits, il lui offre enfin de prendre sa revanche après une enfance pauvre et malmenée. Mais voilà, au cours d'une opération de désingage qui tourne mal, Anthony est obligé de partir se cacher au camping de Vierzon. Dans sa cavale, il va s'allier avec Thérèse, une vieille dame qui fuit l'EHPAD où son neveu veut la placer de force après un AVC. Et nous voilà partis pour toutes sortes de péripéties et de rebondissements dans lesquels nos deux compères sont pourchassés par la police et une escouade de tueurs. Bref, c'est l'histoire de l'arroseur arrosé, mais bien malin, qui saura comment ce roman se termine. Vous vous demandez, j'imagine, pourquoi j'ai aimé ce livre. Eh bien, parce que derrière ce polar social réjouissant au ton immoral, l'auteur parsème son récit de réflexion philosophique sur le sens, le prix et le coût d'une vie humaine. Parce que sur le plan de l'écriture, les chapitres sont courts, rythmés et efficaces. Parce qu'aussi, j'ai adoré le tandem Anthony et Thérèse et leur sens de la justice. J'ai aimé ces personnages solitaires qui se lient d'amitié et envisagent un futur commun. C'est de leur duo improbable que naissent bon nombre de situations loufoques, de retournements de situation et la promesse d'une lecture pétillante. Et puis, entre le choc des générations et le choc des cultures, l'auteur, avec son humour noir, profite à fond de cette chasse à l'homme pour égratigner notre société. Car dans ce roman, malgré les cadavres qui s'empilent et les tueurs qui rôdent, il reste toujours un motif de se réjouir de la vie. Alors, si vous souhaitez connaître la fin d'Histoire qui est complètement dingue, rendez-vous dans vos médiathèques Camus et Césaire, où L'Agent vous attend au rayon polar. Je laisse à présent la place à Lucille pour son roman Young Adulte.
Merci Laurence, bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je vous présente un roman fantasy à partir de 15 ans. Il s'agit de Heartless Hunter de Kristen Ciccarelli, qui est paru chez Pocket Jeunesse en 2024. Depuis l'avènement de la Nouvelle République, le règne des sœurs sorcières est terminé. Toute personne suspectée d'être une sorcière est désormais arrêtée par la garde de sang et purgée. Leur signe distinctif ? Les cicatrices qu'elles arborent comme des tatouages sur leur corps. Rune le sait parfaitement, puisque sa grand-mère qu'elle a dénoncée lors de la Grande Purge en était une. Par cet acte, elle est devenue un symbole de la Nouvelle République. Mais sous ces apparences de jeune fille frivole se cache en réalité le Sphinx rouge, une sorcière justicière qui protège et sauve ses semblables chaque nuit. Lorsque une vieille amie de sa grand-mère qui détient les réponses à toutes ses questions est arrêtée, Rune n'a pas le choix. Pour découvrir où elle est détenue et la libérer, elle va devoir obtenir des informations du meilleur chasseur de sorcières du pays, Gideon Sharp. Gideon, quant à lui, déteste deux choses, les sorcières et les jeunes filles futiles. Au fur et à mesure des tentatives de Rune pour le séduire, il découvre que derrière la façade se cache une jeune fille bien plus profonde et intéressante qu'il ne le pensait, et toutes ses certitudes vacillent. Est-elle réellement, comme il le pense, liée au meurtrier sanguinaire qui sévit en ville et qu'il pourchasse sans relâche ? Vous le découvrirez en lisant cette romantaisie avec des chapitres qui alternent entre Rune et Gideon, permettant d'avoir le point de vue de chacun des personnages, tout en enchaînant parfaitement pour un récit assez fluide. Rune et Gideon se rapprochent au fur et à mesure de l'histoire, mais leurs différences finiront-elles par les séparer ou sauront-ils les concilier ? Pour le savoir, venez vite emprunter le tome 1 à la médiathèque Camus. Et si l'histoire vous plaît, le tome 2 est d'ores et déjà présent dans nos rayons. Je laisse la parole à Marjorie.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter une BD coup de poing qui s'intitule « Impact » d'Olivier Donrec et de Fred Pontarolo. C'est l'adaptation du roman policier d'Olivier Donrec qui a aussi écrit le scénario de cette BD. Une psychologue, Diane Meyer, doit se rendre en urgence au Bastion du 36, le nouveau pôle de police judiciaire de Paris. Là, on lui présente son coéquipier, le capitaine Nathan Modis. Elle est chargée de réaliser le profilage d'un individu. Elle doit regarder une vidéo sur l'écran, filmée en direct à partir d'une webcam. Les coéquipiers découvrent le PDG de Total enfermé dans une cage en verre à laquelle est relié un tuyau vers le pot d'échappement d'un tracteur. Le kidnappeur prend la parole et présente les revendications de Green War, le groupe d'activistes dont il est le leader. Il dénonce l'inaction écologique mondiale qui va conduire à la perte de l'humanité et demande une caution de 20 milliards d'euros pour libérer le PDG. Si cette caution est versée, il promet de rendre cet argent au fur et à mesure que des mesures drastiques seront prises en faveur de l'écologie. Les autorités ont 24 heures pour s'organiser, après quoi le PDG de Total sera exécuté. Ce thriller, ici adapté et dessiné en BD par Fred Pontarolo, nous immerge dans un chantage mortel exercé par un groupe d'éco-terroristes qui fait pression sur leur gouvernement pour sauver l'humanité de son inaction en matière environnementale. Dans un souci de rendre justice, il pose une vraie question. Peut-on sacrifier intentionnellement quelques personnes néfastes à l'environnement au profit de la sauvegarde de l'humanité ? Tuer au nom de l'écologie serait alors un acte de légitime défense. Dès lors, les éco-terroristes ne sont pas des terroristes, mais des sauveurs. Le policier et la psychologue, chargés d'arrêter le chef de ce groupe, se retrouvent obligés de prendre parti. Peut-être séduit par le charisme de cet anti-héros, Diane va choisir de le défendre. Cet anti-héros, c'est Virgil Solal, un vétéran qui a démissionné de l'armée et qui n'a plus rien à perdre. Son histoire personnelle va faire pencher la balance en sa faveur. L'opinion publique va s'enflammer pour son combat, puisque les vidéos mises en scène par Green War vont devenir virales sur les réseaux sociaux. Partout en France et dans les pays européens, des manifestations vont se dérouler. Les manifestants vont tous se couvrir le visage d'un masque de panda, le signe de ralliement à Green War. L'intrigue est très habilement exposée et déroulée. La narration de cette version adaptée est entrecoupée, comme le roman, de séquences qui se focalisent sur les désastres écologiques engendrés par l'activité humaine irraisonnée. Les feux de forêt, les inondations, Les ours polaires qui, face au réchauffement climatique, ne trouvent plus à se nourrir et attaquent l'homme. Et enfin, pour finir cette chronique, j'aimerais vous parler du dessin. La couverture est particulièrement réussie, avec la tête de ce panda en très gros plan, qui reflète à la fois l'identité de Green Wall et semble s'animer devant nos yeux. Elle marque énormément les esprits et indique un mouvement de colère, un étendard brandi à la face du monde. La couverture dominante de la BD est le vert. Soit on a un vert sale ou alors un vert trop lumineux pour être réel. La mise en lumière de l'intrigue passe par ce vert et accompagne le récit. J'ai beaucoup aimé le dessin de Fred Pontarolo qui éclaire le propos d'Olivier Norek sous un angle nouveau. Je n'aurai donc qu'une parole, venez emprunter et lire l'adaptation vraiment réussie du roman Impact d'Olivier Norek, remarquablement dessiné par Fred Pontarolo, que vous pouvez trouver à la médiathèque Vaillant. Maintenant, je laisse la parole à Maëlle qui va nous parler d'une pièce de théâtre.
Merci Marjorie. J'ai décidé de retourner les voir, revenir sur mes pas, aller sur mes traces et faire le voyage, ce que je crois, lentement, calmement, d'une manière posée. Dire, seulement dire, ma mort prochaine et irrémédiable. L'annoncer moi-même, en être l'unique messager. Me donner et donner aux autres une dernière fois l'illusion d'être responsable de moi-même et d'être, jusqu'à cette extrémité, mon propre maître. Bonjour à toutes et tous, chères auditrices et auditeurs. Cet extrait que vous venez d'entendre est tiré du prologue de la pièce de Jean-Luc Lagarce, « Juste la fin du monde ». Cela fait 12 ans que Louis, le personnage principal, n'a pas vu sa famille, composée de sa mère, sa petite sœur Suzanne, ainsi que son frère Antoine et la femme de ce dernier Catherine. 12 années où Louis a fait preuve de réserve en voyant des cartes postales de temps en temps. Mais il décide de revenir pour leur annoncer sa mort prochaine. Cette pièce de théâtre est un huis clos poétique qui nous emmène au cœur d'une famille déchirée par le départ de Louis et son soudain retour sans que personne ne comprenne vraiment pourquoi. Ce drame est composé de deux parties séparées par un intermède. Chaque partie est composée de grandes tirades. Il y a très peu d'échanges entre les personnages et surtout très peu d'échanges avec Louis. En effet, Louis est comme absent, comme s'il n'était pas vraiment revenu. Seule Catherine a des interactions plus longues avec lui car ils ne se sont jamais rencontrés auparavant. Mais les autres membres de sa famille interagissent peu avec lui, comme s'il était déjà parti. Louis, lui, semble perdu dans ses pensées, cherchant la bonne occasion d'annoncer qu'il ne reviendra pas. Cela rend l'œuvre particulièrement intéressante. Cette pièce de théâtre m'a touchée. C'est certes un drame, mais elle n'est pas larmoyante. Elle nous fait poser des questions sur la famille et la mort. Les longues tirades des personnages nous plongent dans leur raisonnement. Nous avons l'impression d'être avec eux et de partager leurs pensées grâce à un langage. En effet, ce dernier déploie une écriture musicale faite de reprises, de bégayements, d'élans interrompus. Cette parole heurtée, hésitante, traduit l'impossibilité de dire l'essentiel. Je vous invite également à découvrir le film du réalisateur Xavier Dolan, portant le même titre. Cette interprétation est poignante et le jeu d'acteur est excellent. Alors, venez donc découvrir « Juste la fin du monde » de Jean-Luc Lagarce à la médiathèque Vaillant, ainsi que le film à la médiathèque Vaillant également. Merci d'avoir écouté les coups de cœur des médiathécaires. On vous donne rendez-vous en octobre pour une nouvelle sélection de coups de cœur. À bientôt.
T'es en manque d'inspiration?
T'es curieuse?
À la bonne heure, tu es au bon endroit.
Vos médiathèques s'invitent à Radio B pour vous présenter leur coup de cœur du moment.
Nos chroniques sont à retrouver le 4e mercredi du mois.
À 7h30, 8h30 et 12h30.
Rediffusion le samedi à 12h30.
Tu nous as ratés?
Pense au podcast.